Je suis embarrassé de présenter l'abbé Paul de Clercq, que la plupart d'entre vous le connaissent. Paul est déjà intervenu à maintes reprises ici à Lyautey, notamment dans des débats contradictoires. Et donc l'abbé de Clercq a été longtemps responsable, est encore responsable de la revue La Maison Dieu, non ? Tout récemment alors.
Ceci, c'était mon dernier numéro.
Ah voilà. Donc c'était longtemps l'éminence grise de la revue liturgique dans l'espace francophone, La Maison Dieu. Il était longtemps professeur à l'Institut de liturgie à Paris. Il intervient aujourd'hui encore à de nombreux titres comme expert en liturgie. Et puis, tout récemment, le cardinal lui a confié une mission pastorale d'envergure, puisque au vicariat de Bruxelles, tu coordonnes différentes pastorales qui concernent... Annonce et célébration, voilà. L'avantage de l'avoir parmi nous, outre ses compétences avérées, c'est d'avoir un regard forcément différent des autres intervenants, et nous avions souhaité, lors de ce cycle de conférences, éclairer cette question fondamentale de la liturgie par différents angles et aussi différents lieux d'engagement ecclésial des intervenants, et c'est ce que nous allons écouter avec grand plaisir ce soir.
Que sera-ce après ma conférence ? Bonsoir à tous. Je suis très heureux que cette série de conférences existe, parce qu'effectivement, la liturgie, nous la célébrons, très heureusement. Mais comme en toute chose, on s'habitue, on fait comme on a toujours fait. Et de temps en temps, revoir nos pratiques, y réfléchir, c'est important. Parce qu'en toute chose, il y a le cœur et l'esprit, et quand il y a de bonnes relations entre les deux, ça va bien. Mais quand il y a une hypertrophie d'un des deux côtés, il y a éventuellement un certain déséquilibre. Ceci donc pour introduire notre thème de ce soir, les diverses modalités de présence du Christ dans l'Eucharistie. Présence du Christ. C'est une manière habituelle de s'exprimer, bien évidemment. Le Christ se rend présent. On entend parfois aussi dire le prêtre rend le Christ présent, ce qui est déjà un peu plus inquiétant. On parle aussi de présence réelle quand il s'agit de l'Eucharistie, de l'hostie consacrée. C'est un langage habituel, certainement en Occident, et qui cependant n'est pas sans poser problème. À deux titres. D'abord, si Dieu existe, si nous entendons le credo, je crois en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, il est évident qu'il est présent à notre monde, c'est sa création. Mais le simple fait de dire ça montre que quand on dit présence, on dit un peu autre chose. Mais il faut entendre ce que nous entendons par la présence du Christ sur cet arrière-fond. Le fait qu'effectivement, Dieu a créé l'univers. Et comme dit le psaume, les cieux racontent la gloire de Dieu. L'œuvre de ses mains, le firmament l'annonce. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui trouvent davantage la méditation en allant se promener dans la forêt de Soignes qu'en venant dans nos églises. Et ce n'est pas entièrement faux. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais ce n'est pas faux. Parce qu'effectivement, si Dieu existe, justement, on peut le rencontrer. Augustin a dit, je vous ai mis cette phrase au dos de la feuille, « Dieu plus intérieur, plus intime à nous que nous-mêmes. » Premier questionnement sur cette manière habituelle de parler. Et un second questionnement, c'est que cette manière de parler est exclusivement occidentale. s'il y a des chrétiens orientaux parmi nous, ils ne s'expriment pas ainsi. Et le Nouveau Testament non plus, d'ailleurs. Vous ne trouvez pas le terme présence dans le Nouveau Testament. En d'autres termes, il y a eu des difficultés à ce propos, et particulièrement en Occident. J'en parlerai tout à l'heure. Et on a forgé l'expression « présence réelle ». Avez-vous déjà vu une présence irréelle ? Vous entendez qu'il y a quelque chose de polémique dans l'addition de l'adjectif. Hein ? Il est présent ou il est absent. Mais une présence, il faut insister. Il faut insister, présence réelle. Qu'est-ce que c'est qu'une présence symbolique ? Oui, ce pourrait être intéressant. Et donc, on pourrait risquer de réduire la présence du Christ seulement au sacrement et à l'Eucharistie, en disant ça, c'est la présence réelle. Et justement, oublier son existence, le fait que, effectivement, le monde entier est sa création et que nous pouvons le rencontrer. Bien sûr, dans les sacrements qui sont faits spécifiquement pour cela, mais pas exclusivement. Et donc, pour travailler un peu cela, nous allons procéder en trois temps. Je vais d'abord montrer comment le Concile a élargi nos manières de nous exprimer à ce propos dans la Constitution sur la liturgie. En second lieu, je dirai un mot de ces difficultés occidentales auxquelles je viens de faire allusion. Surtout au grand XIIIe siècle. Et enfin, nous ferons quelques réflexions sur la manière de comprendre de manière plus riche la question de la présence du Christ. Commençons donc par le Concile. Le Concile a commencé en 1962. Il a commencé par le travail sur la liturgie. Alors, il y a deux interprétations, comme toujours. Les gens qui ont les yeux en face des trous et qui étaient au courant, disent « les dossiers étaient prêts ». Le mouvement liturgique a commencé en France avec Don Guéranger en 1833, ça fait quand même quelques années. Il y avait eu des tas de réunions et donc les experts se connaissaient, le dossier était prêt. Donc c'est pas étonnant que le Concile ait commencé par là. Les méchantes langues disent « il fallait bien commencer par quelque chose ». Et donc, en pratique, on a quand même commencé par la Constitution sur la liturgie, qui est un très grand texte. Vous savez que dans les textes conciliaires, il y a des décrets, il y a des constitutions. Il y a quatre constitutions. La constitution sur la liturgie est donc un de ces textes qui a une notification majeure. Et au numéro 7, vous avez le texte sous les yeux. La constitution sur la liturgie s'exprime ainsi. Pour accomplir une si grande œuvre, et l'œuvre, c'est l'œuvre de la rédemption, le Christ est toujours présent à son Église. Surtout, vous savez, c'est texte conciliaire, hein, donc c'est pesé par 2200 évêques. Hein, et donc chaque mot a sa portée. Hein, toujours présent, mais surtout dans les actions liturgiques. Et alors on décline les modalités. Il est là présent, on commence par le plus fort, dans le sacrifice de la messe, dans la personne du ministre, et au plus haut degré, vous voyez qu'il y a des degrés, au plus haut degré, sous les espèces eucharistiques. Il est là présent par sa puissance dans les sacrements. Donc on a commencé par le sacrifice de la messe, on arrive au sacrement, si bien que lorsque quelqu'un baptise, c'est évidemment le Christ lui-même qui baptise. Alors que tout le monde dit « Ah, c'était le prêtre qui m'a baptisé ». Le Christ qui baptise. Il est là présent dans sa parole, puisque lui-même parle pendant que sont lus dans l'Église les Saintes Écritures. Enfin, il est là présent quand l'Église prie et chante les psaumes. Lui qui a promis, Là où deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. » Citation de Matthieu 18, 20, Constitution sur la liturgie numéro 7. Ce texte a eu une grande répercussion parce que il est parvenu à surmonter des manières de s'exprimer qui dépendaient des difficultés médiévales auxquelles je viendrai. Justement, le dépassement consistant en une présentation diversifiée des choses. Et disant, il y a des modalités de la présence et elles ne sont pas toutes de même densité. On commence par l'Eucharistie et au plus haut degré, les espèces eucharistiques. Mais aussi les sacrements et aussi sa parole. Comment appelait-on la liturgie de la parole avant le concile ? L'avant-messe. Avant-messe. Et on arrivait en retard si le prêtre avait levé le voile du calice. C'était en latin et donc ce n'était que l'avant-messe. Non. Il est là présent dans sa parole. Et aujourd'hui, on dit « Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus !» Dans la liturgie, les acclamations sont d'une très grande importance. Elles disent de manière brève l'acte qu'on est en train de faire et sa signification. Et donc, ce texte a constitué un excellent dépassement de difficultés médiévales. Et cependant, il utilise toujours les mêmes catégories. C'est toujours la catégorie de présence, mais qu'il module. Et donc, on peut se réjouir de ce numéro 7 de la Constitution sur la liturgie qui nous invite à élargir nos manières de voir et de prendre en considération les diverses modalités de la présence du Christ pour nous. Et cependant, si on met ce texte en regard de la tradition de l'Église, du Nouveau Testament, des pères de l'Église, on voit aussi la particularité, parce que chercher dans le Nouveau Testament, vous ne trouvez pas ces manières de s'exprimer, et chez les pères de l'Église non plus. Oh, chez les pères de l'Église, on peut trouver, en cherchant, on trouve toujours. Mais je vous ai mis un texte au bas de la page, de Grégoire le Grand, au tournant du 6e et du 7e siècle, qui commente, c'est le bas de la deuxième page, Grégoire le Grand, à propos de Jean 4, 46, 53, Grégoire commente, il dit « Le fonctionnaire cherchait en effet la présence, voilà le terme, cherchait la présence corporelle du Seigneur, qui, en son esprit, ne nous manque jamais. Il a donc fait preuve d'une foi moindre, parce qu'il n'a pas estimé que Jésus pouvait lui procurer le salut s'il n'était pas présent de corps. S'il avait cru parfaitement, en effet, il aurait su sans aucun doute qu'il n'y a pas de lieu où Dieu n'est pas, évidemment. » Et donc il a cherché une sorte de matérialisation de la présence. Et donc il a eu une foi moindre. Et c'est un de rare, je crois, texte où on parle de la présence, mais je voulais citer ainsi, parmi d'autres que l'on aurait pu éventuellement citer. Donc le concile, manière de prendre le problème à bras-le-corps, de l'élargir, tout en restant dans les mêmes catégories. Je vous ai dit que cette question avait fait problème au Moyen-Âge, et c'est le Moyen-Âge qui a forgé, qui a formé notre mentalité à ce propos. Et donc on va voir dans un second temps, après l'élargissement conciliaire, dans un second temps, d'où viennent ces difficultés médiévales et d'où, quelles sont les racines, au fond, de nos manières d'entrer dans ce genre de questions. Ces difficultés médiévales commencent dès après Charlemagne, 9e siècle, les théologiens en Occident seulement, c'est un problème particulier. Les théologiens se demandent comment rendre compte intellectuellement, rationnellement, théologiquement, de la présence du Christ dans l'Eucharistie, c'était spécifiquement la question de l'Eucharistie. Alors, 9e siècle passe, 10e siècle passe, 11e siècle passe. Pour ceux qui ont fait de la théologie, il y a Béranger de Tours qui se fait condamner parce qu'il ne trouve pas les bonnes solutions. 12e siècle, fin 12e, 13e siècle, nouveauté intellectuelle sur le marché occidental, l'arrivée de la philosophie grecque via les Arabes, par l'Espagne, ça arrive en France. Et un bon flamand, ami de saint Thomas, traduit Aristote de l'arabe en latin, et voilà que l'Occident dispose maintenant d'un outil intellectuel nouveau pour penser aussi la chose. Très bien. Ça a fécondé la scolastique de manière formidable. Et donc, les scolastiques, les théologiens scolastiques, on veut dire qu'ils travaillent dans des écoles, à la différence des pères de l'Église qui prêchaient dans les églises. Ce sont des théologiens de métier maintenant. Donc, scolastique n'a pas de signification péjorative. C'est des théologiens qui sont des professeurs de théologie. Ben voilà, ça arrive. Ils ne sont pas toujours bien payés, mais voilà. Et ils disposent donc maintenant d'outils intellectuels nouveaux pour appréhender la fameuse question, hein, comment rendre compte. Ça ne veut pas dire qu'ils n'y croyaient pas avant, mais il leur était difficile d'exprimer les choses, de les expliciter. Alors, cette explicitation va pouvoir se faire à l'aide de nouveaux concepts. Entendez bien, ce sont des concepts. Ce sont des catégories intellectuelles qui ne sont plus les nôtres. Mais c'est avec ça qu'ils ont travaillé. Quels sont ? Il y a deux jeux de concepts. Le premier jeu, c'est matière et forme. Ça n'a rien de matériel. Hein. Quand on dit matière et forme, c'est les traductions françaises habituelles de ces termes. Hein. Mais ce sont des outils intellectuels. Ça n'a rien de matériel. Mais les théologiens scolastiques utilisent, adaptent, reprennent à Aristote ses notions pour penser les sacrements. Hein, et par exemple, ils disent, ben voilà, le sacrement du baptême, la matière, c'est l'eau. On est baptisé avec l'eau, dans l'eau, par l'eau. Et donc, la matière, c'est l'eau. La forme, c'est la parole du Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous mettez les deux ensemble, l'eau et la parole, et le baptême existe. On a un outil conceptuel pour penser les sacrements. L'eau, la parole, les deux ensemble, ça réalise, ça effectue l'action sacramentelle. Idem pour l'Eucharistie, la matière c'est le pain et le vin, la forme ce sont les paroles du Christ, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Premier groupe de concepts. Un second groupe de concepts, c'est la substance et les accidents. La substance, c'est aussi un concept intellectuel. Hein. Vous ne saisissez pas la substance par vos mains. Hein. On essaye d'analyser les choses à l'aide de ces concepts. Et donc le concept de substance, hein, pour dire le fond des choses, même si on ne parvient pas à les appréhender, à les photographier, la substance et les accidents. Les accidents, c'est ce qui apparaît, ce que l'on peut appréhender, justement. On dit aussi les espèces, les species. La substance et les accidents. Et la substance, effectivement, va servir à donner le mot transsubstantiation. C'est-à-dire qu'effectivement, on va forger, les théologiens scolastiques vont forger le terme transsubstantiation. Hein. On avait la substance du pain ou du vin, grâce à l'opération sacramentelle matière et forme, il y a un changement de substance que vous ne voyez pas, mais qui est... On peut exprimer l'action sacramentelle par ces mots-là. Il y avait la substance du pain et du vin, après la consécration, c'est la substance du corps et du sang du Christ. Mot forgé par les théologiens scolastiques à l'aide des catégories aristotéliciennes. Au XVIe siècle, les protestants ont dit « c'est pas un mot biblique, donc on le met de côté ». C'est pas un mot biblique, ça c'était le moins qu'on pouvait dire. Et comme on était dans la polémique, malheureusement, la polémique, il faut toujours s'en méfier, les catholiques ont dit, puisqu'ils rejettent la transsubstantiation, ils ne croient pas à la présence du Christ. Non, ils n'admettaient pas cette manière-là de penser la chose. Mais c'est encore tout différent de croire et d'exprimer la foi dans certaines catégories. Et comme les protestants voulaient des catégories bibliques, ben nécessairement, transsubstantiation, ce n'est pas une catégorie biblique, et donc ils n'en voulaient pas. Ils n'en veulent toujours pas, très heureusement. Et nous utilisons très fréquemment aussi le vocabulaire aristotélicien lorsque nous parlons à la messe, de communier sous les deux espèces. C'est Aristote qui parle, et vous avez dans la bouche des mots du IVe siècle grec. Vous ne trouvez pas ça dans l'Évangile, les espèces. Non, c'est des catégories intellectuelles grecques passées par les Arabes en Occident au XIIIe siècle et qui ont été utiles à ce moment-là pour résoudre des difficultés qui dataient déjà de 5 siècles. Ça a été une explosion de satisfaction intellectuelle et de piété, et particulièrement en Belgique, qui n'existait pas encore. La région existait. Je vais rentrer dans les détails. Mais vous connaissez sans doute Sainte-Julienne du Mont-Cornillon, à Liège, sur les hauteurs de Liège. Monial, qui, dans les années 1220, a une vision. Si vous voulez aller voir la vision, pas ce soir parce que vous n'y verrez rien, mais vous allez à la chapelle du Saint-Sacrement, près de la gare du Luxembourg, c'est la Viale qui est là maintenant, et vous avez des vitraux représentant la vision de Sainte-Julienne du Mont-Cornillon, qui a eu cette vision vers 1220, la lune, mais avec un segment qui manquait. Qu'est-ce que c'est que ce segment manquant ? Elle a réfléchi, elle a médité, elle en a parlé à sa petite copine Ide de Huy. Et après 20 ans de méditation, l'explication était claire. Ce qui manquait, la lune, ça représentait évidemment l'année liturgique, et le segment qui manquait, c'était la fête de Dieu. C'est quand même clair. Et donc, 1240, elle est convaincue de cela. Elle a une chance formidable parce que se trouve à Liège un ecclésiastique de Troyes dont le nom m'échappe, mais qui deviendra le pape Urbain IV, qui admet la fête de la fête Dieu 1246 à Liège, une première fois. Il devient pape sous le nom d'Urbain IV et en 1264, il instaure à Rome la fête du Saint-Sacrement. Et donc, vous voyez, d'une part, au XIIIe siècle, les théologiens héritent d'outils capables de penser la question de la présence de Christ et certainement du mystère eucharistique. Et ça a une répercussion durant tout le second millénaire occidental, mais aussi, parallèlement à cela, dans la piété, en dehors des écoles de théologie, les mêmes préoccupations trouvent à s'exprimer et trouvent des expressions de dévotion envers le Saint-Sacrement, procession du Saint-Sacrement, adoration du Saint-Sacrement. Ces choses-là naissent à partir du fin XIIIe et le XIVe siècle. Et donc, vous voyez que là, il y a eu une réflexion très importante et des modifications importantes. Parce que, justement, la mise en relief de l'hostie consacrée. On a pris des reliquaires pour y mettre l'hostie, en faire ce qu'on appelle un ostensoir, et mettre cela en valeur, en relief, l'adoration du Saint-Sacrement, les processions du Saint-Sacrement. Ça a eu un succès énorme à l'époque et jusqu'aujourd'hui. Il faut cependant bien voir la portée de ce mouvement. Ça a été, d'une part, une manière formidable de dépasser des difficultés, mais en même temps, quand on regarde cela aujourd'hui, on dit « Ah, mais dans leur considération de l'Eucharistie, l'Assemblée, elle n'est pas prise en compte. Qui est trois personnes, 30 ou 3000, ça n'a aucune importance par rapport à l'acte de transsubstantiation. L'Assemblée n'est pas considérée, et donc nous avons dans la tête, dans la bouche, la messe du prêtre. C'est la messe du prêtre. Et d'ailleurs, on a construit des jubés. Si, on les a détruits à 30, mais comme personne n'est obéissant au maxi, vous pouvez aller à Louvain, à la collégiale de Louvain, le jubé est toujours en place. Et donc, il y a une série d'églises, à Zoutlé aussi, vous avez encore de beaux jubés qui restent et qui séparent le cœur où se faisait le mystère, et puis le reste de l'église où voilà, on pouvait s'occuper, prier éventuellement. Mystère eucharistique, ce n'est pas l'affaire des chrétiens. Ni l'assemblée, ni la parole. Liturgie de la parole, c'est avant messe. Ça ne fait pas partie du mystère eucharistique. La communion n'existe plus. Rappelez-vous le cinquième commandement de l'Église. Dieu ton sauveur, tu recevras au moins à Pâques dignement. Il fallait un commandement de l'Église pour dire au moins une fois par an. En pratique, les gens ne communiaient plus, par respect, par dévotion, mais prenez et mangez. Non, c'est fini, ça. Pas d'assemblée, pas de liturgie, enfin, oui, liturgie de la parole qui n'était pas entendue, pas de communion. Et la prière eucharistique elle-même, non entendu dans son déploiement, dans sa plénitude, mais concentré dans la reprise des paroles du Christ. C'est si vrai que Luther, qui était un moine augustin de bonne foi, a dit « mais puisque ça ne sert à rien, on va le supprimer ». Et les luthériens, depuis lors, heureusement maintenant, ils commencent à changer, les luthériens ont dit, mais oui, la préface, ça va parce qu'on chante, mais tout le reste, c'est des prières qui ne servent à rien, et donc on les laisse tomber. Pour retenir seulement les paroles de la consécration, puisque ce sont les seules efficaces qui produisent la présence du Christ. Et donc, aujourd'hui encore, la prière eucharistique, c'est un des moments les plus difficiles de l'Eucharistie parce qu'on n'a aucune tradition. Il n'y a rien qui nous porte en Occident. J'y reviendrai encore tout à l'heure. Donc, difficultés médiévales qui sont notre histoire, qu'il faut reconnaître, qu'il faut assumer, mais auxquelles, justement, on ne peut pas rester. C'est pour ça que j'ai commencé par le numéro 7 de la Constitution sur la liturgie, qui montre bien que, justement, quand on parle de présence du Christ, ce n'est pas limité aux espèces eucharistiques, mais qui emploie toujours quand même le terme présence. Troisième temps de mon exposé, après le Vatican II, les difficultés médiévales, des réflexions à partir de là, et pour essayer d'entendre cela, de saisir cela, de vivre de cela aujourd'hui. Une première réflexion, c'est de prendre en considération la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. partir pour comprendre la foi et certainement les sacrements et certainement l'Eucharistie de la résurrection de Jésus. Et on a pour ce faire, en rapport avec l'Eucharistie, un texte admirable qui est le récit des pèlerins d'Emmaüs qui est situé dans Saint-Luc au soir de Pâques. C'est pas pour rien. Vous connaissez parfaitement ce texte. Mais deux hommes, dont l'un s'appelle Cléophas et l'autre n'a pas de nom, chacun de nous peut l'être, ce second pèlerin, mais déçu parce qu'on avait pensé, nous, que ce serait le sauveur, et puis maintenant, voilà le troisième jour que c'est passé, et donc, désespérance. Mais quelqu'un marche à leur côté, qu'ils ne reconnaissent pas puisqu'il est ressuscité. Regardez dans tous les récits évangéliques, hein, apparition à Marie-Madeleine, aux apôtres, aux disciples d'Emmaüs, ils ne le reconnaissent pas, parce que c'est le même Jésus, mais ressuscité, c'est-à-dire dans une autre condition d'être. Et donc on n'est pas d'emblée au même niveau. Et donc la reconnaissance ne peut se faire que par la foi, mais pas par les yeux, pas par le corps, pas par le corporel, par le spirituel, par la foi. Et donc l'étranger fait route avec eux, hein, constate leur désespérance, les interroge à ce propos, et puis leur explique dans toutes les Écritures, les Écritures, liturgie de la parole, une liturgie de la parole, hein, au point qu'il dit, mais c'est intéressant, reste avec nous, car déjà le soir tombe. Ils se mirent à table. Il prit le pain, il prononça la bénédiction. Alors ça, entendez bien, de grâce, de grâce, de grâce, de grâce, de grâce, de grâce. Hein, bénédiction, ce n'est pas faire une petite croix sur le pain. Hein, c'est bénir Dieu pour ce qu'il fait, et donc pour cet événement, pour la résurrection du Christ. C'est la prière eucharistique en d'autres termes. La bénédiction, c'est rendre grâce à Dieu, élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu, c'est ça la bénédiction. Et donc quand au cœur de l'Eucharistie on dit « il prit le pain, il prononça la bénédiction », on dit en une phrase tout ce qu'on est en train de faire. Mais ce n'est pas le mot « bénédiction » au sens juif, hein, vient de bénir Dieu. Dieu nous bénit et donc nous lui rendons en hommage la bénédiction. Il prit le pain, il prononça la bénédiction, il le rompit comme il avait rompu son cœur sur la croix. Nous ne recevons pas un pain, nous recevons un pain rompu parce que c'est le pain de la mort, de la souffrance, de l'amour jusqu'au bout. Il rompit le pain et le donna à ses disciples. À ce moment, ils le reconnaissent, puisque ce sont les gestes de la scène, et puisqu'ils avaient quitté Jérusalem lamentablement, désespérément, ils retournent à Jérusalem, qui est le lieu de la résurrection, ils retrouvent les disciples qui leur disent « Le Seigneur est ressuscité ». Vous avez là un admirable récit de la conversion eucharistique, du retournement, puisque de la désespérance, il quittait Jérusalem. Pour aller à Emmaüs, même les archéologues n'ont pas retrouvé un trou. Oui, mais cherchez, vous ne trouverez pas. De Jérusalem à Emmaüs, et là, justement, dans le rien, où il n'y a plus d'espérance humaine possible, hein, où tous les comptes bancaires s'effondrent, hein, là effectivement, hein, la rencontre du ressuscité, hein, qui les fait retourner à Jérusalem et retrouver les disciples et faire église. Et donc, il n'y a pas d'Eucharistie possible sans la résurrection. La dernière scène n'est pas véritablement l'Eucharistie. Ce sont les prémices. Il n'y a pas de liturgie de la parole, ou pas explicitement en tout cas. Il y a les gestes de Jésus exprimant ce qu'il vit et sa foi à ce moment-là, où prenant le pain, il le rompit comme tout père de famille juif le faisait à l'époque pour le repas du sabbat, éventuellement le repas pascal, on peut hésiter, hein, mais la particularité de ce que Jésus a fait à la Sainte, c'est la parole qu'il a ajoutée. Le geste est celui du repas juif, mais la parole, ceci est mon corps rompu pour vous. Il y a trois participes dans le Nouveau Testament à ce propos: livré pour vous, donné pour vous, brisé pour vous, rompu pour vous. Et donc, qui est le signe de la donation de Jésus qu'il va signer sur la croix quelques heures après. Les quatre verbes eucharistiques sont essentiels. Il prit le pain, c'est sans doute le moins important. Il prononça la bénédiction à Dieu pour ce que Dieu est, pour ce qu'on peut connaître de lui et pour les événements qui se déroulent. Il rompit le pain en signe de sa donation jusqu'au bout et il le donna à ses disciples pour communier à cet événement. Le récit d'Emmaüs est sans doute un des plus riches pour découvrir ce qu'est la résurrection et effectivement ce qui tient presque immédiatement, à savoir l'Eucharistie qui est le retournement de toute chose. Vous pouvez aussi prendre la finale de Matthieu, Matthieu 28, 19, 20. Hein, il rassembla ses disciples et il leur dit: allez par le monde entier, annoncez la parole, hein, faites de toutes les nations, faites des disciples. Quand on veut dire par cœur, ça rate toujours. De toutes les nations, faites des disciples. Oui, tout le monde connaît ça, mais quand on veut le dire, ça ne vient pas. Allez donc, de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant, bien sûr, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, hein, leur apprenant à garder dans leur cœur, à conserver tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous. Présence. Mais vous voyez, le mot présence n'est pas utilisé dans le Nouveau Testament. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Ici, il n'est pas question de l'Eucharistie comme telle, hein, mais de ce qui est le fondement de la vie chrétienne, le baptême, hein, et d'une traduction de la résurrection de Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Une deuxième manière d'approfondir ces choses et d'y réfléchir, ce sont ce qu'on appelle, c'est un terme un peu barbare, mot grec, les épiclèses. Qu'est-ce qu'une épiclèse ? Clèse, c'est kaléo, appelé, épi, sur, donc on appelle sur, on invoque littéralement une invocation, un appel, une prière au sens large. Mais le mot épiclèse a aussi un sens plus précis, plus technique, qui désigne précisément une invocation de l'Église adressée au Père pour lui demander le don de l'Esprit Saint. Les orientaux ont une grande vénération pour les épiclèses, comme en Occident on s'agenouille pour la consécration, eux s'agenouillent pour l'épiclèse, la venue de l'Esprit qui sanctifie les dons. Or, en Occident, on n'a pas connu l'épiclèse. Le canon romain ne le connaît pas explicitement. Dans la traduction actuelle, il y a quelques petits coups de pouce pour notamment l'addition du verbe sanctifier qui nous permet d'entendre quelque chose ainsi. Mais il faut constater que la tradition occidentale n'a pas développé la théologie du Saint-Esprit. Et c'est aussi un des grandes ouvertures du Concile, d'avoir davantage ouvert l'esprit, la compréhension de la foi, hein, au don de l'Esprit Saint. Et aujourd'hui, il y a de nombreux mouvements qui favorisent la prière à l'Esprit et l'invocation de l'Esprit. Pour l'Eucharistie, l'Eucharistie particulièrement, mais ça vaut aussi éventuellement pour les autres sacrements, pas le concile lui-même, mais le travail de mise en œuvre des décisions conciliaires et l'ouverture à d'autres prières eucharistiques que le seul canon romain, ce travail a estimé, ceux qui ont été chargés de ce travail ont estimé qu'il était heureux de recevoir de la tradition orientale les épiclèses, au sens où ça faisait partie de la tradition chrétienne orientale, mais qu'on pouvait en profiter. Ce verbe n'est pas très riche, mais enfin, c'est ça. Nous ouvrir, nous enrichir grâce à l'apport de nos frères orientaux à ce propos. Et on a admis cela, ça a été reçu dans toutes les prières eucharistiques aujourd'hui, mis à part le canon romain avec ce que viens-je vous dire. Vous avez non pas une épiclèse, mais deux. On a scindé l'épiclèse en une épiclèse sur les dons avant le récit de l'institution et une épiclèse sur l'assemblée en vue de la communion après la consécration et l'anamnèse. Je vous ai mis les textes. Oui, je vais d'abord vous en lire un dans la prière eucharistique 2, celle qui est la plus commune. Vous avez la préface, le Sanctus, et puis la prière qui demande « Sanctifie ses offrandes » avec le geste d'appel de l'esprit, « Sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit » qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Et donc, sanctification par l'Esprit Saint. Et donc, on fait appel, c'est vraiment le cas de le dire, on fait appel à l'Esprit de sainteté, de sanctification, pour réaliser l'action eucharistique de Jésus et faire en sorte que effectivement ce pain et ce vin deviennent son corps. Épiclèse donc sur les dons après le récit de l'institution et l'anamnèse. Deuxième épiclèse, le texte ici dit « Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. » Oui, c'est léger, c'est la prière eucharistique la plus brève, ce n'est pas très développé, mais je vous ai mis là au verso de la page le texte provenant de la première prière eucharistique pour la réconciliation, qui construit en exact parallèle la première et la seconde épiclèse. C'est intéressant à lire, je lis les deux colonnes en même temps. Donc, première épiclèse de sanctification, regarde ton peuple ici rassemblé, épiclèse de communion, regarde avec amour, Père très bon, ceux que tu attires vers toi, leur donnant de communier à l'unique sacrifice du Christ, et mets en œuvre la puissance de ton esprit, de l'autre côté par la force de l'esprit, que ces offrandes deviennent pour nous, que nous devenions, les fidèles deviennent ensemble, que l'on nous goûte le corps et le sang de ton fils, le corps de ton fils ressuscité. Donc le même terme corps pour le Christ et pour l'Église, le corps du Christ. En qui nous sommes tes enfants, en qui sont abolies toutes les divisions. Donc là, vous avez un admirable parallèle qui peut nous faire entrer dans la compréhension profonde de ce qu'est l'épiclèse et de l'enrichissement de la compréhension de l'Eucharistie que produisent ces épiclèses. Ce n'est pas seulement trois lignes de plus dans la prière, c'est donner sa place au Saint-Esprit dans le mystère eucharistique. Et donc, depuis le XIIIe siècle, nous avons en tête la présence du Christ dans l'Eucharistie, mais qui d'entre vous a appris à l'école la sanctification des dons et des chrétiens par le Saint-Esprit dans l'Eucharistie. Pas encore, pas encore. Constat qu'il faut faire qu'effectivement le concile a eu lieu il y a 40 ans, mais qu'on est encore loin d'avoir perçu toute sa richesse, et surtout de la vivre. Parce qu'un concile, ce n'est pas seulement des textes, ce n'est pas seulement là, c'est dans notre cœur, c'est dans notre foi, c'est dans notre vie. Et donc, enfin, c'est pour ça que j'ai estimé bon de vous donner ces textes, qui sont ceux de la messe. Hein, tous les missels que vous pouvez avoir comportent ces textes, mais nous n'avons pas été habitués à ouvrir nos oreilles à cela. Pourquoi ? XIIIe siècle. Et la suite. On a développé. Ce XIIIe siècle a tellement bien marché qu'on en a vécu jusque récemment. Et donc, il ne faut pas en vouloir à nos prédécesseurs. Il faut surtout se réjouir que nous ayons, nous, des dons, des capacités plus larges, plus profondes pour vivre le mystère eucharistique. Donc ma première réflexion concernait la théologie de la résurrection, la seconde les épiclèses, dans les liturgies orientales, si vous allez un jour à Chefton ou bien si vous voyagez en Orient, hein, en grec c'est ta agia tois agios, ta agia les réalités saintes, les dons cœur et sang du Christ, tois agios pour les saints que nous sommes appelés à devenir. Ou en français, la communion des saints. La communion aux choses saintes pour faire la communion des saints. C'est une expression très riche. La koinonia, la communion, justement, la source, l'origine, le principe de la communion, c'est la participation au corps et au sang du Christ qui fait notre communion. Si je ne me trompe, il y aura un exposé sur l'Eucharistie fait l'Église. Nous n'avons pas appris ça au catéchisme non plus, mais c'est tout à fait fondamental. Fait la communion de l'Église. La communion de l'Église, ce n'est pas seulement parce qu'on va boire le café ensemble après, c'est parce que même si on est différent, si on pense ceci ou on pense ça, on est fait chrétien par notre baptême et par notre communion eucharistique. Ce n'est pas d'abord une question de sentiment, de ceci ou ça, ou parce qu'on aime bien ces chants-ci ou ces chants-là. On est fait chrétien et communion chrétienne par la communion eucharistique. Ce n'est pas seulement dévotionnel, au petit sens du terme, c'est constitutif de l'Église. L'Église tient par cela. Il faut peut-être un droit canon, etc., mais enfin, ça c'est autre chose. Mais ce n'est pas le droit canon qui fait la communion. Il faut peut-être un droit canon pour préciser les choses et éviter trop d'ennuis. Mais la substance de l'Église, c'est l'Eucharistie. Le corps et le sang du Christ qui fait notre communion. Une note encore à propos de ces deux épiclèses, ça vous indique aussi la dynamique de la prière eucharistique. La prière eucharistique est un ensemble plus ou moins long selon les formulaires dont on dispose, mais ce ne sont pas des prières les unes à côté des autres, il y a un mouvement. Et en ce sens-là, le fait que nous ayons deux épiclèses montre bien la sanctification des dons en vue de la sanctification des chrétiens qui vont communier après. Et donc on est pris dans un long fleuve tranquille, mais qui nous mène à la croix et à la résurrection. C'est le seul chemin des chrétiens. Troisième type de réflexion, les sacrements, j'élargis à partir de l'Eucharistie à l'ensemble des sacrements, les sacrements considérés comme des épiphanies des œuvres de Dieu, des manifestations, des révélations, des actualisations des œuvres de Dieu. un vocabulaire qui n'est pas le vocabulaire causal, hein, les sacrements qui causent la grâce. Oui, on a dit ça, mais c'est le vocabulaire scolastique, hein, oui, hein, par la forme, la matière est transformée et peut causer la, oui, véhicule la grâce, cause la grâce. Mais vous voyez le caractère. Non, je ne vais pas le dire, hein, je vais dire en d'autres termes. La non prise en considération par la méthode scolastique de la répercussion des sacrements en nous. Ce qui les intéressait, c'était rendre compte de ce qui se passe dans l'acte eucharistique. Mais la répercussion dans l'Église, non. C'est ça qui nous a manqué aussi. Les sacrements sont là pour nous faire devenir chrétiens. Le baptême, oui, l'Eucharistie, bien sûr, mais le mariage, les ordinations, qui toutes manifestent d'une certaine manière l'œuvre de Dieu, les œuvres de Dieu pour nous, dont le but est toujours la communion. C'est pour ça que l'Eucharistie, finalement, reste toujours le modèle par excellence des sacrements. Et il faut reconnaître que l'utilisation de la causalité, des sacrements qui causent la grâce, a parfois aussi eu dans nos esprits ou parfois dans nos cœurs des répercussions un peu désagréables, comme si nous avions barre sur Dieu. Comme si, le prêtre baptise, mais non, enfin, oui. Le prêtre célèbre le sacrement de baptême. Enfin, c'est pas le prêtre qui donne la grâce. C'est l'action sacramentelle dont le prêtre est un ministre. Mais, oui, mais la manière de parler fait en sorte qu'on se coule là-dedans et que finalement on n'est pas gêné par ce genre d'expression. C'est pour ça que l'introduction des épiclèses est très importante pour ça. Parce que ça nous montre bien que c'est l'œuvre de l'esprit que nous avons à mettre en œuvre, bien évidemment, à réaliser. Et pour venir à l'Eucharistie, il faut mettre son réveil et sortir du lit, bien évidemment. Hein? Mais ce n'est pas nous qui sommes à l'origine de cela. Hein? D'ailleurs, dans les bonnes églises, on sonne les cloches. Hein? L'appel des cloches signe qu'effectivement, nous sommes invités. C'est très important, l'appel des cloches. Hein? En dehors du fait que ce soit beau, c'est aussi théologique. Ou pour le dire encore autrement, c'est parce que Dieu est un Dieu de vie qu'il existe le baptême. C'est parce que l'Esprit veut se communiquer à nous qu'il existe la confirmation. C'est parce que Dieu nous réunit encore du Christ qu'il existe l'Eucharistie. Les sacrements sont faits pour nous introduire plus profondément dans l'Évangile, dans la vie évangélique, dans la vie proprement chrétienne. Et donc, comprenez bien, si je reviens au début de mon exposé, le problème de la présence du Christ, ce n'est pas de chercher exclusivement et précisément à comprendre que ce pain ou comment ce pain devient corps du Christ, comme un miracle auquel on peut croire. Parce que l'Église le dit. Mais c'est de se rassembler, d'écouter la parole, de se laisser transformer par elle, de chanter le psaume qui nous prend encore autrement, de rendre grâce à Dieu, élevons notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vous savez, les dialogues sont très importants dans la liturgie parce qu'au fond, ils concentrent la signification. Le dialogue de la préface vous dit quasi tout. Le Seigneur avec vous. Il est avec vous. Il est avec vous, il ne faut pas attendre. Le Seigneur avec vous. Élevons notre cœur. Pourquoi faire ? Rendons grâce, en grec, c'est faisons Eucharistie pour le Seigneur notre Dieu. Voilà le programme. Et vous dites, cela est digne, cela est juste et bon, on y va. On dit d'abord ce que l'on fait, ce que l'on va faire. C'est pas. Et une fois qu'on l'a fait, on dit par lui, avec lui, en lui, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et voilà. Là, nous n'avons pas été habitués à entendre ces paroles, à y correspondre, parce qu'il y avait une sorte de fixation sur une seule modalité de la présence du Christ, et c'est cela qu'il faut parvenir à surmonter, à élargir notre compréhension de la foi à ce propos. Conclusion, il n'est pas indispensable pour bien parler de l'Eucharistie de n'utiliser que le terme présence. Il fait partie du vocabulaire, mais je vous ai bien dit sans doute, enfin j'espère, ses limites. Il y a bien d'autres termes qui peuvent nous faire entrer profondément et justement dans l'action eucharistique. Et pour ça, Emmaüs est formidable. Il communie et il retourne à Jérusalem et ils annoncent la résurrection. Dépasser une vue un peu trop matérialisante des sacrements. On entend quand même si souvent dire « oui, mais c'est un peu de la magie, ces choses-là. Ça n'a rien à voir. » Si on écoute la parole évangélique prévue dans tous les sacrements avant l'acte sacramentel précis, on est en dehors de toute compréhension magique des choses. Le contexte n'y porte absolument pas. Mais on entend la parole de Dieu et on la met en œuvre par une action sacramentelle. Le grand risque du vocabulaire de la présence, c'est que son contraire, c'est l'absence. Et donc, on veut y tenir parce que si ce n'est pas présent, c'est absent. Mais ça, c'est la grande limite de ce vocabulaire, voyez-vous ? Alors que, justement, le Seigneur avec vous et la théologie de la résurrection, qui est le fondement de l'Église et de la vie sacramentelle, nous permet de ne pas en rester à ce vocabulaire dépendant des difficultés du XIIIe siècle et à être plus libre et plus... pas seulement plus libre au sens où on prendrait des libertés, ce n'est pas ça que je veux dire, mais on élargit la compréhension du mystère pour mieux en vivre. Positivement, découvrir le rôle de l'esprit dans l'Eucharistie, qui ouvre nos cœurs à la parole. Ça, c'est une belle chose de nos frères protestants. Ils ont une épiclèse, donc une invocation de l'esprit, avant la proclamation de la parole, demandant à l'esprit d'ouvrir nos cœurs pour que nous recevions la parole. Très beau. Non, ce n'est pas parce que c'est protestant que ce serait mauvais de le faire chez nous. Une fois de temps en temps. Justement, le rôle de l'esprit qui sanctifie, qui rend chrétien, qui christianise les personnes et les dons sanctifiés, les personnes par les dons sanctifiés. Comme l'a dit Albert Vinel dans la conférence précédente, l'Eucharistie n'est née ni le jeudi, appelé jeudi saint, parce que le Christ n'était ni mort ni ressuscité, ni le vendredi, si l'Eucharistie fêtait le vendredi saint, ce serait seulement la croix, ni le samedi, l'attente. Mais la première Eucharistie est vécue le dimanche, jour de la résurrection. La résurrection est condition de possibilité de l'Eucharistie. La résurrection de Jésus est indispensable. On ne peut pas comprendre les sacrements, la vie chrétienne et particulièrement l'Eucharistie sans... la résurrection de Jésus, le rassemblement des chrétiens, pensez encore une fois de plus à Emmaüs, à l'annonce de la parole, à l'action de grâce pour le don qu'il fait de lui-même jusqu'à la mort, pour enfin notre communion, la communion des chrétiens avec leur Seigneur, ressuscité dans l'esprit. Je vous remercie.